la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Mel Emmanuel.
Il est 18h en temps universel. Bonsoir. Un peu plus de 330 membres du RHDP écopent d'une sanction pour un an de leur groupement politique. Le motif, ils ont outrepassé les consignes du parti en allant aux élections contre les candidats investis par le parti. Célébration de la Journée mondiale de la santé mentale en Côte d'Ivoire, ce mardi 10 octobre, le Programme national de la santé mentale appelle les populations à ne pas porter de jugement sur les personnes ayant un problème de santé mentale et de leur côté, ces personnes devraient en faire cas pour recevoir de l'aide. Et puis hors de chez nous, le scrutin présidentiel au Libéria s'est déroulé dans le calme avec une forte mobilisation des électeurs selon les premières tendances. Nous démarrons ce journal avec l'avis de nos institutions, précisément le Sénat ivoirien. Le nouveau président de l'institution pourrait être connu le jeudi 12 octobre 2023, date retenue pour la séance inaugurale de la deuxième législature. Le principal point à l'ordre du jour de cette rencontre sera l'élection du successeur de Jeannot Ahoussou-Kouadio, le président sortant. À cet effet, tous les sénateurs, qu'ils soient élus ou nommés, peuvent faire acte de candidature pour être président du Sénat, nous dit Geoffroy Julien Kouao, juriste et analyste politique.
Oui, il faut interroger surtout le règlement intérieur du Sénat. Et ce règlement est d'une extrême clarté. Et les sénateurs élus et les sénateurs non élus peuvent être candidats à la présidence du Sénat. Autrement dit, pour être candidat à la présidence du Sénat, il faut tout simplement avoir la qualité de sénateur. Peu importe la nature du mode de désignation, que ce soit un sénateur élu ou un sénateur nommé, il peut valablement candidater pour la présidence du Sénat. Évidemment, il appartient à ses collègues de porter leur choix sur sa personne pour que cette personne-là devienne présidente du Sénat.
Le jeudi prochain sera probablement connu le président du Sénat de Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous cette élection?
Oui, comme toute élection, elle sera discutée, mais selon toute vraisemblance, la présidence reviendra à un cadre du RHDP qui a la majorité absolue au Sénat. Maintenant, est-ce que ce sera une dame ou un monsieur? J'avoue que, en tant qu'analyste politique, ma préférence va vers une dame pour qu'on ait quand même la promotion du genre, surtout à la tête d'une des plus importantes institutions de notre pays.
C'était Geoffroy Julien Kouao, juriste et analyste politique en ligne avec Soro Adams. Rappelons que le Sénat, créé par la Constitution du 8 novembre 2016, est une institution parlementaire de la République de Côte d'Ivoire. Il constitue avec l'Assemblée nationale le Parlement ivoirien à eux deux. Il vote la loi, concentre l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. En outre, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Ils sont un peu plus de 330 membres du RHDP à avoir écopé de sanctions pour une année, après avoir outrepassé les consignes du parti en se présentant aux élections locales de septembre 2023 contre les candidats investis par le parti. Les explications avec Doumbia Brahima, il est le secrétaire exécutif adjoint chargé des élections au RHDP.
Quand on appartient à une organisation politique comme le RHDP, on est régi par des textes et on est astreint au respect de ces textes. Il y a une disposition des statuts règlements intérieurs du RHDP qui définit la question de la discipline et des actions que les militants doivent s'abstenir de poser. Parmi ces actions, il est considéré comme une faute grave le fait de se présenter candidat contre les candidats investis par le parti. Malgré tout cela, certains cadres sont allés aux élections, soit en tant que tête de liste contre les candidats du RHDP ou sur des listes concurrentes aux listes du RHDP, ce qui, au regard des textes du RHDP, constitue des fautes graves.
Quelles sont donc la nature des sanctions?
Il y a la déchéance des fonctions occupées Ensuite, si vous appartenez à une instance centrale du parti, vous êtes exclu de cette instance. Donc, tous ceux qui ont été convaincus donc d'indiscipline sont exclus de ces instances. Et puis, il y a aussi le blâme donc pour les militants qui n'ont pas de responsabilité particulière dans le parti. Et puis, à côté de ça, il y a aussi la suspension des activités du parti pour une année.
Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé des élections au RHDP, joint au téléphone par Gapienan Ouattara. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, une tournée de reconnaissance et de remerciement du nouveau président du conseil régional du Tonkpi, Albert Mabri Twakeus, a sillonné les différents chefs-lieux de département du Tonkpi 3 jours durant. Occasion pour lui de prôner le vivre ensemble et la solidarité, gage de développement. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tonkpi.
La vente abusive et non réglementée du patrimoine forestier continue toujours d'exister dans certains villages de la région du Tonkpi. C'est le constat fait à Gouinpleu par Gueux Mathurin, cadre et natif de la localité, qui a circonscrit un grave conflit foncier naissant entre autochtones Yakuba du deux villages et certains de leurs frères halogènes.
C'est devenu très tôt s'attaquer à ce problème pour ne pas que le pire arrive dans la région. La première des choses, c'est de dire à nos parents d'arrêter de vendre leur forêt. Mes frères burkinabés m'ont expliqué comment ils sont installés, qui les a installés. J'ai demandé à nos frères que celui qui a vendu, c'est pas sa terre, qu'il libère. Aux frères burkinabés aussi, je souhaiterais que, quand ils veulent payer quelque chose, qu'ils ne le fassent pas avec les enfants, mais que le chef du village, le président des jeunes, le chef de terre, que tout cela, ils soient au courant, pour ne pas qu'à chaque fois, ça débouche sur des palabres.
Le porte-parole de la communauté burkinabé salue cette approche pacifique en ces termes. La
première des choses, c'est pour leur dire seulement que M. Gueux Mathurin, qui est l'un des fils, le neveu de ce village, est venu éteindre le feu. Sinon, nous, on était là, on ne savait pas quoi faire. Il a tout dit. Que d'abord, dans un village, dans un campement, il y a un chef, il y a chef de terre, il y a président des jeunes. En conséquence, on doit s'atteler à venir au village et croiser les parents. Je suis venu avec mon staff. Ils sont tous venus pour écouter chacun dans son village, dans son campement. Le message sera passé.
Les campagnes incessantes de sensibilisation à l'endroit des populations rurales se poursuivent pour le maintien d'un climat apaisé. Stéphane Adams, de retour de Gouinpleu, Radio de la paix.
C'était à l'instant plutôt un enrobé sur le règlement pacifique de conflit à Gouinpleu, réalisé par Stéphane Adams, notre correspondant régional dans le Tonkpi. Cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux 500 jeunes du campus citoyen édition 2023 à l'Académie régionale technique de la mer. Compte rendu, Matatoré.
Rappelons qu'hier déjà, c'était 1500 jeunes qui ont été formés à environ 35 métiers de la mer et de l'industrie. Et pour cette cérémonie, 500 d'entre eux se sont vus décerner leur certificat de 5 formations différentes dans le cadre de ce programme de campus citoyen. Koulibaly Karim est le directeur général de l'Académie des sciences et techniques des mers.
L'ARSTEM a mis à la disposition de l'Office du service civique national ses infrastructures de formation, de restauration, d'hébergement, ses aires de jeu, de sport, son infirmerie et son personnel en charge des moyens généraux.
De son côté, le représentant du ministère de la promotion de la jeunesse a relevé l'importance capitale de cette cérémonie, Ibrahim Adosso.
Car il s'agit à travers un encadrement rigoureux et de proximité de promouvoir chez les jeunes le civisme, la discipline, la conscience nationale et la dévotion pour la patrie.
Les bénéficiaires, à leur tour, se sont engagés à être des ambassadeurs dans leur région d'origine auprès d'autres jeunes et disent être partis riches chacun de 499 nouveaux contacts, nouveaux frères et sœurs même, ce campus ayant surtout créé une communauté fraternelle. Le campus citoyen, qui en était à sa seconde édition, s'inscrit dans le cadre de l'année de la jeunesse du programme Jeunesse du gouvernement PGGouv.
Parlons de santé dans ce journal. On doit cesser de critiquer les personnes ayant un problème de santé mentale qui, à leur tour, doivent en parler et non le cacher pour qu'on puisse les prendre en charge. C'est l'une des recommandations du Programme national de santé mentale qui célébrait pour la Côte d'Ivoire ce mardi 10 octobre à Abidjan la Journée mondiale de la santé mentale. Francis Cassie y était, son compte rendu.
Outre des sujets développés par des techniciens des problèmes de santé mentale, le témoignage sur le sujet à cette cérémonie du suspect 95, artiste-chanteur, a été un autre temps fort.
Retirer ce tabou qu'il y a autour de la dépression en Afrique. Moi, je considère une dépression comme un palu. Si j'ai pas honte de dire que je suis passé par une dépression parce que j'aurais pas honte de dire que je viens de passer par un palu. Et je pense que c'est le fait de ne pas en parler ou de cacher ça qui fait que on n'arrive pas à avancer efficacement sur le sujet.
Une dame aussi, au nombre des participants, a accepté de nous parler.
Magouri Liko, maman de Chris Désiré, âgée de 14 ans, autiste et présidente de l'association Parents Cœur Bleu.
Mais est-ce que l'autisme fait partie des problèmes de santé mentale?
Oui, l'autisme fait partie des problèmes de santé mentale. Les troubles mentaux, que les gens qui en souffrent ne soient plus stigmatisés pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour eux.
Ensuite, docteur Akissi Niapa Estelle, médecin du travail au programme national de la santé mentale, a fait cette précision.
Pour cette journée, ce qu'il faudrait clarifier dans la tête des populations, c'est que la santé mentale, c'est pas les fous. La santé mentale, c'est un état de bien-être. Et lorsqu'on n'est pas bien dans sa tête, on se sent mal. Toute la population devrait prendre conscience de ça et tout faire pour avoir une très bonne santé mentale. Car la santé mentale sont chrétiens, tout comme la santé physique.
Parlons de la santé mentale à tous les âges et à tous les secteurs d'activité, a été le thème national ce 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale, d'après le Programme national de la santé mentale.
Coopération Sud-Sud, le système de protection sociale à Madagascar offre une couverture extrêmement limitée, en particulier pour les travailleurs de l'économie informelle et rurale, qui restent en grande partie exclus des principaux mécanismes en place. À cet effet, une délégation malgache en visite en Côte d'Ivoire du 7 au 15 octobre a eu sa première rencontre d'échange avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à son cabinet, Jean-Claude Mabéa.
Au terme d'une heure d'échange, le directeur général du travail et des lois sociales de Madagascar a expliqué les raisons de leur présence en terre ivoirienne. Razaka Bouana, Anitra Fitiavana.
L'objet de la mission de Madagascar pour cette semaine, c'est dans le cadre de la coopération Sud-Sud, financée par l'Organisation internationale du travail, qui concerne l'extension de la protection sociale. La délégation de la Côte d'Ivoire était déjà venue à Madagascar il y a quelques mois déjà pour partager ces bonnes pratiques, puisque nous avons constaté que le pays est déjà en grande avancée pour cette extension de la protection sociale, d'où donc cette idée d'échange de bonnes pratiques. Ensuite, donc, est venue maintenant cette visite de la délégation malgache pour pouvoir constater de visu donc ces bonnes pratiques pour qu'on puisse avancer dans un plan d'action pour Madagascar.
Maître Adama Camara, le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a lui-même conduit les échanges, s'est réjoui d'avoir partagé l'expérience ivoirienne en matière de protection sociale.
Nous leur avons fait retour de notre expérience sur les instruments de protection sociale qui sont en cours dans notre pays, la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, la complémentaire par capitalisation instituée au profit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire.
La suite du programme de cette délégation sera consacrée aux échanges en atelier et au cours des visites des différents services du ministère de l'emploi et de la protection sociale.
Au Libéria, près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 10 octobre 2023 pour élire notamment leur président. Le scrutin a débuté dans la matinée et s'annonce serré. Le président sortant, George Weah, fait face entre autres à l'ancien vice-président Joseph Boakai. Les Libériens doivent également choisir leurs députés et 15 sénateurs. Les premières tendances font part d'une participation importante pour une première élection organisée sans la présence des casques bleus de l'ONU. Revenons en Côte d'Ivoire avec une note de sport. Troisième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF Côte d'Ivoire 2023. Pour la première fois de son histoire, cette compétition pose ses valises en Côte d'Ivoire après les deux éditions précédentes qui ont eu lieu en Égypte en 2021 et au Maroc en 2022. Ce sont les stades Laurent Pokou de San Pedro et Amadou Gon Coulibaly de Korogo qui accueilleront l'édition de 2023 du 5 au 19 novembre. La réaction du président de la FIFA au sortir du tirage au sort.
Quand vous construisez des infrastructures, il faut les éprouver. Et pour les éprouver, il faut des compétitions. C'est ainsi d'ailleurs qu'on a décidé de faire tous les matchs des éléphants, si vous avez remarqué, dans tous les stades, histoire d'éprouver les pelouses, éprouver les gradins, les infrastructures, tout. C'est le but. Donc on a fait ça déjà à Yamoussoukro, au stade de Charles Konan Banni, ça s'est bien passé. On est allé à Boaké, au stade de la Paix, ça s'est bien passé. On est allé à San Pedro, au stade Laurent Pokou, ça s'est bien passé. On est allé à Ebipé, il y a eu les problèmes, ils sont en train d'être traités, d'être en charge, et là maintenant on va aller jouer au stade de Fouboigny pour les matchs contre le Maroc et contre l'Afrique du Sud pour voir ce qui se passe, et après on ira à Korogo pour aussi tester. Donc nous sommes dans un processus de test et de mise à niveau, et cette compétition nous donne l'opportunité de tester nos infrastructures. Donc on est très satisfait de ça. Ça donne l'opportunité aussi à une équipe ivoirienne de participer. Ça va être sa première expérience. On espère qu'ils vont profiter de ça pour gagner en expérience et puis en compétence. Le football féminin est devenu le nouveau relais de croissance. Hein. Donc il faut qu'en Afrique aussi, progressivement, on arrive à faire évoluer notre football féminin. Donc c'est une belle opportunité pour nous de nous former, de nous frotter au meilleur et d'évoluer.
Des propos du président de la FIFA, Idriss Diallo, rapportés par César Yao. Nous arrivons au terme de ce journal, le rappel des titres. Un peu plus de 330 membres du RHDP écopent d'une sanction pour un an de leur parti. Le motif, ils ont outrepassé les consignes du parti en allant aux élections contre les candidats investis par le parti. Célébration de la Journée mondiale de la santé mentale en Côte d'Ivoire ce mardi 10 octobre. Le Programme national de la santé mentale appelle les populations à ne pas porter de jugement sur les personnes ayant un problème de santé mentale et de leur côté, ces personnes devraient en faire cas pour recevoir de l'aide. Et puis hors de chez nous, le scrutin présidentiel au Libéria s'est déroulé dans le calme et avec une forte mobilisation des électeurs selon les premières tendances. Merci de rester à l'écoute des programmes de Radio de la Paix. Pour vous maintenant, mon droit au quotidien avec Aoussi Potin.